Laudetur Jesus Christus.
Si nous adorons les richesses de ce monde, elles prennent possession de nous et nous rendent esclaves. L'homélie du pape François hier depuis Matera, dans le sud de l'Italie. Le Saint-Père est venu conclure un congrès eucharistique national. L'Italie à la une de l'actualité en Europe. Les Italiens ont choisi hier la coalition des droites emmenée par Giorgia Meloni pour diriger le pays. Cette alliance a recueilli plus de 44% des suffrages. L'union de centre-gauche, 26%. Dans ce journal, nous irons également à Pékin où le parti communiste chinois est en ordre de marche avant son congrès du 16 octobre. Hier, le PCC a annoncé avoir élu tous ses délégués. Ce futur congrès devrait permettre au président Xi Jinping de décrocher un troisième mandat. Et puis dans notre dossier, nous parlerons de la délicate question de la fin de vie relancée en France. Le président Macron a ouvert une consultation nationale après l'avis positif du Comité consultatif national d'éthique en rupture avec ses précédentes positions. Et l'Église plaide, elle, plutôt pour une aide active à vivre.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, le pape François a célébré dimanche matin la messe à Matera, dans le sud de l'Italie, en conclusion du congrès eucharistique italien. Dans son homélie centrée sur l'Eucharistie, le pape a appelé à retrouver le goût du pain pour que nous soyons apôtres de fraternité et que l'Église devienne pain de tendresse et de miséricorde. Xavier Sartre.
L'Eucharistie, source et sommet de la vie du chrétien, sacrement de l'amour, prophétie d'un monde nouveau. Elle nous lance un défi, adorer Dieu et non pas soi-même. Mettre Dieu au centre au lieu de la vanité du moi. Choisir en somme l'exemple de Lazare et refuser celui du riche qui en perd son identité. Ce choix nous porte à la liberté, car celui qui adore Dieu ne devient l'esclave de personne, précise le pape.
Chi adora Dio non diventa schiavo di nessuno.
L'Eucharistie nous appelle aussi à l'amour de nos frères et sœurs, continue François, pour que notre vie soit du blé moulu et devienne du pain qui nourrit nos frères et sœurs. Ne soyons pas indifférents aux injustices, aux inégalités, à la répartition inégale des ressources de la terre, aux abus des puissants contre les faibles, aux cris des pauvres, à l'abîme que nous creusons chaque jour en générant la marginalisation, évoque-t-il. L'Eucharistie nous demande en effet une conversion de l'indifférence à la compassion, du gaspillage au partage, de l'égoïsme à l'amour, de l'individualisme à la fraternité, explique le pape, qui rêve aussi d'une église eucharistique, qui sait se pencher avec compassion sur les plaies des souffrants, relever les pauvres, essuyer les larmes de ceux qui souffrent, se faire pain d'espérance et de joie pour tous, et de nous inviter à retrouver le goût du pain, à retrouver Jésus, qui nous envoie quotidiennement comme apôtre de fraternité, de justice et de paix.
Xavier Sartre. Après l'Angélus, le pape François s'est joint à l'appel des évêques du Cameroun hier pour la libération de 8 personnes enlevées contre rançon dans le diocèse de Mamfé, dont 5 prêtres et une religieuse. Le pape a aussi eu une pensée pour la Birmanie, ce noble pays qui depuis plus de 2 ans, dit François, est tourmenté par de graves affrontements armés. À la une de l'actualité internationale, l'Italie passe à droite. Les élections législatives anticipées tenues hier sur la péninsule ont plébiscité la coalition des droites avec plus de 44,5% des voix. Cette alliance obtiendrait la majorité dans les 2 chambres du Parlement. Une victoire nette avant tout de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d'Italia qui recueille plus d'un quart des voix. Précision à Rome avec Blandine Hugonnet.
C'est une Giorgia Meloni triomphante qui est arrivée au milieu de la nuit sous l'acclamation de ses soutiens dans le quartier général loué par Fratelli d'Italia au centre de la capitale. Une Meloni fière et prête à répondre à l'appel envoyé par ses électeurs italiens.
Il me semble qu'on peut l'affirmer,
c'est une indication claire qui nous arrive des Italiens pour former un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Nous ne sommes pas au point d'arrivée, mais au point de départ. Nous devrons démontrer ce qu'on vaut. Il est l'heure de la responsabilité, car l'Italie nous a choisis et nous ne la trahirons pas. Loin devant ses rivaux démocrates et fort de sa victoire incontestable dans les urnes, le parti post-fasciste confirme sa place de première force politique d'Italie. Pour sa patronne de 45 ans, la route semble donc toute tracée pour prendre la suite de Mario Draghi, devenir la première femme présidente du Conseil italien et former le premier exécutif d'extrême droite depuis la chute du régime de Mussolini. Une route qui pourrait être semée d'embûches au sein de l'alliance avec Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, le patron de la Ligue qui s'est fait voler la vedette par la la nouvelle coqueluche souverainiste et va devoir digérer une chute dans les urnes hier. En attendant la formation le mois prochain ou plutôt du prochain gouvernement, l'hémicycle italien se teinte donc indéniablement de bleu, la couleur de la coalition de Giorgia Meloni désormais majoritaire au Parlement. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Dernière semaine de campagne présidentielle au Brésil. 11 candidats, 2 font la course en tête. Le président sortant Jair Bolsonaro devrait affronter Luiz Inácio Lula, cet ancien président de gauche et l'actuel favori. Les deux hommes s'affronteront lors d'un débat télévisé très attendu ce jeudi. Les Cubains dans l'attente aujourd'hui des résultats du référendum pour lequel ils ont voté hier sur un nouveau code de la famille proposé par le gouvernement communiste. Ce code fleuve, 104 pages, 500 articles, inclut le mariage homosexuel et la gestation pour autrui. Les évêques avaient fermement exprimé leur opposition dans une déclaration en amont du vote dénonçant l'idéologie du genre et rappelant l'importance du lien affectif entre la mère et l'enfant dans une gestation naturelle. En Iran, le régime islamique hausse le ton vis-à-vis des manifestants dans la rue depuis 10 jours. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a menacé hier de ne faire preuve d'aucune indulgence à leur égard. La répression du mouvement a coûté pour l'heure la vie à 41 personnes. L'Allemagne cherche son gaz et son diesel du côté des Émirats. Berlin et Abu Dhabi ont signé un accord hier. Il prévoit une fourniture de gaz liquéfié ces 2 prochaines années à l'Allemagne. En Russie, la mobilisation partielle décrétée il y a 5 jours connaît plusieurs ratés que les réseaux sociaux relaient avec nombre d'exemples dans le pays. Un problème qui a attiré l'attention des présidents des 2 chambres du Parlement russe qui demandent désormais aux gouverneurs des régions de respecter les critères d'enrôlement. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Valentina Matvienko, présidente de la Chambre haute du Parlement russe, évoque des pratiques inacceptables. Son homologue de la Chambre basse, Vyacheslav Volodin, exige lui que les erreurs soient réparées. Une critique acerbe des autorités régionales. Ce sont elles qui ont pour tâche de recruter les réservistes et force est de constater qu'elles préfèrent fournir les contingents exigés sans se soucier des règles de sélection des hommes mobilisables. Sur les réseaux sociaux, on voit des hommes se battre devant des bus censés les emmener dans les centres de formation de l'armée, des responsables incapables de répondre aux objections qui leur sont faites par des citoyens lorsqu'ils n'appellent pas la police pour lui demander de s'occuper de ces personnes apparemment récalcitrantes. Une situation préoccupante dans la mesure où la réussite de l'opération spéciale dépend de la capacité de combat des forces armées, estime Vyacheslav Volodin, qui exige des gouverneurs qu'ils fassent le nécessaire pour que les règles d'enrôlement soient respectées. Une situation d'autant plus préoccupante que Vladimir Poutine vient de limoger le responsable de la logistique de l'armée. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Un demi-siècle de relations normalisées, c'est ce que la Chine et le Japon célèbrent ce mois-ci, 50 ans après donc le 29 septembre 1972, qui mettait fin officiellement à leur état de guerre. Un anniversaire toutefois en demi-teinte, les relations étant de plus en plus crispées entre l'Empire du Milieu et le pays du Soleil Levant, le Japon étant évidemment un proche allié de Washington. En Chine, le Parti communiste a annoncé hier avoir élu tous ses délégués pour son prochain congrès qui débutera le 16 octobre. Ce qui devrait permettre au président Xi Jinping d'obtenir un 3e mandat inédit à la tête du pays. À Pékin, Stéphane Pambrin.
C'est un congrès historique qui se tiendra à Pékin le 16 octobre prochain dans l'imposant palais du peuple, place Tiananmen. À l'ombre du portrait du premier président de la République populaire, Mao Tse-tung, accroché au fronton de la cité interdite, Xi Jinping devrait, en toute vraisemblance, décrocher un 3e mandat par acclamation. Tout est prêt pour le sacre du président le plus puissant depuis Mao. Les 2296 délégués du Parti communiste chinois représentant toutes les provinces et régions du pays ont été formellement désignés depuis dimanche. Ils désigneront à Pékin à leur tour près de 200 délégués du comité central du parti qui formeront ensuite les 25 membres du bureau politique dont son tout-puissant comité permanent composé actuellement de 7 personnes. C'est le véritable centre du pouvoir en Chine et le véritable enjeu de ce congrès. Des votes aux allures de formalité puisque les compositions du bureau politique et de son comité permanent sont décidées bien à l'avance depuis cet été en fait. Et Xi Jinping au pouvoir depuis 10 ans a concentré tous les pouvoirs allant jusqu'à modifier la durée maximum d'un mandat pour le président qui était fixé à 10 ans et à inscrire sa pensée dans la Constitution. À Pékin, Stéphane Pambrin pour Radio Vatican.
C'est finalement aujourd'hui que s'ouvre à Hong Kong le procès du cardinal Joseph Zen, 90 ans. L'évêque émérite devait comparaître lundi dernier, mais la séance a été reportée. Le cardinal Zen est accusé d'avoir géré un fonds d'aide aux manifestants anti-gouvernementaux. Le Saint-Siège suit de très près la situation. Un tournant qui se dessine en France. Le président Macron a annoncé le 13 septembre dernier le lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie, dont les conclusions sont attendues pour mars 2023. Pour le moment, la législation interdit l'euthanasie et le suicide assisté dans l'Hexagone. Avant de lancer le débat, le gouvernement attendait l'avis du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui s'est montré en rupture avec ses précédentes positions. Il évoque en effet maintenant la possibilité de trouver dans certains cas une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir. Le CCNE affirme aussi qu'il faut développer les soins palliatifs avant toute réforme, comme le soulignent les évêques de France qui ont plaidé dans une déclaration samedi en faveur d'une aide active à vivre. Docteur Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs à Narbonne et présidente de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs.
Il me semble que dès le titre de son avis, le CCNE il pose bien la question à laquelle on va devoir réfléchir dans les mois qui viennent, en posant d'emblée le dilemme autonomie-solidarité. Jusqu'à présent, on a une loi, des lois autour de la question de la fin de vie qui sont clairement du côté de la solidarité. Vous comptez pour nous, vous avez du prix pour nous, quoi qu'il en coûte, on va tout faire pour vous soulager parce que vous le valez bien. On ne doit pas s'obstiner, on doit vous soulager, même si ça doit éventuellement raccourcir la vie. Peut-être on vous fera dormir pour vous soulager si on n'a pas d'autres moyens. Mais en tout cas, on doit écouter ce que vous avez à nous dire par les directives anticipées et la personne de confiance. Donc c'est vraiment un message qui est du côté de la solidarité. Et le CCNE, dans son avis, propose de réfléchir du côté de l'autonomie. Et donc c'est un message collectif complètement différent, qui est plutôt du côté de « c'est vous qui décidez et nous, collectivement, on se met à votre disposition, mais c'est vous qui décidez ». Et je pense que l'impact de ce changement, en particulier sur les personnes les plus fragiles et sur les soignants, est extrêmement important. Et donc c'est ce débat-là qu'on va devoir avoir tous ensemble dans les mois à venir.
Et justement, comment faire pour éviter la confusion et l'idéologie sur ces sujets délicats dans les mois qui viennent ?
Ce que j'espère, c'est qu'il y a un grand travail de pédagogie à faire pour bien expliquer ce dont il est question, pour séparer peut-être deux sujets différents. Il y a la question des gens qui vont mourir, dont s'occupent les soins palliatifs. Pour ces patients-là, on manque pas de loi, on manque de moyens. Mais la loi nous donne absolument tous les outils pour accompagner correctement ces patients et pour pouvoir les soulager. Et puis, il y a la question des gens qui veulent mourir, qui est une question sociétale, qui, à mon sens et au sens des soignants, n'appelle pas de réponse médicale, mais qui est une autre question, des gens qui veulent avancer ou choisir le moment de leur mort. Mais c'est important de bien séparer les choses, de bien nommer les choses aussi. L'euthanasie, c'est la question de la mort donnée par un soignant. Le suicide assisté, c'est la société qui donne à un patient les moyens de mettre lui-même fin à ses jours. C'est important de bien poser les choses pour que les termes du débat soient clairs pour tout le monde.
Évidemment, on ne sait pas comment va aboutir ce débat, mais quelles conséquences aurait la légalisation de l'euthanasie sur les soins palliatifs, justement ?
On a interrogé, nous, les acteurs de soins palliatifs. On leur a demandé comment, eux, ils imaginaient les conséquences d'une telle légalisation de manière absolument massive. Ils sont opposés à cette légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire, j'insiste que c'est sur le geste fait par un soignant. C'est seulement 4% des soignants qui seraient favorables et seulement 2% des médecins en soins palliatifs. Et ce qu'ils anticipent de manière là aussi tout à fait importante, c'est des divisions dans les équipes, des démissions, à minima l'utilisation de leur clause de conscience. Ce qu'on peut imaginer par ces réponses, c'est qu'en tout cas, cette loi-là, on déstabiliserait de manière très importante le monde des soins palliatifs dans une période où le monde soignant est déjà très mis à mal par le contexte actuel.
Étant donné votre expérience, qu'est-ce que vous percevez auprès des patients ? Est-ce que vous vous dites il faudrait vraiment une évolution ou finalement ce qu'on propose convient ?
Alors, contrairement à ce qu'on imagine beaucoup dans le débat public, c'est absolument pas une question de notre quotidien, la question de l'euthanasie, du tout. La question de la demande de mort arrive parfois, pas fréquemment, mais parfois, et souvent de manière extrêmement ambivalente et fluctuante. C'est-à-dire, à un moment, on a envie que ça s'arrête, et puis à un moment, on voudrait continuer à vivre, et puis on refait des projets, et puis on dit, c'est difficile comme ça. C'est une question plus complexe, et c'est pas du tout pour nous une question quotidienne. Donc, je crois pas que les services de soins palliatifs en général soient dans ce manque au quotidien, du tout. C'est notre travail, comme à celui des aumôniers, de tous ceux qui accompagnent les psychologues, donner un espace aux patients. Il y a une différence importante entre écouter ces demandes, chercher ensemble comment on peut y répondre, et puis faire un geste létal. C'est vraiment deux choses qui sont différentes.
Interrogée par Adélaïde Patrignani, docteur Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Un ainsi se referme cette édition. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité à Radio Vatican. Les dernières nouvelles du pape, du Vatican et de l'Église dans le monde se consultent sur notre site vaticannews.va. Très belle journée.